L'âge d'or des sciences arabes avec Algérie Télécom.
Algérie Télécom, le bon choix.
L'âge d'or des sciences arabes. Un voyage au pays des mille et une sciences pour découvrir les avancées scientifiques de l'une des périodes les plus fructueuses de l'humanité. Entre grands savants et découvertes étonnantes de modernité, plongez dans le monde fascinant de l'âge d'or des sciences arabes, conté par le professeur Ahmed Tchoppa.
La poésie et la prose arabo-musulmane ont toujours su transmettre toutes les humeurs, tous les tourments, toutes les joies, toutes les peines de l'âme et toutes les vicissitudes de la vie. Une poésie qui doit l'essentiel de son art et de ses techniques prosodiques à sa fameuse métrique. Pendant des siècles, l'art de bien dire était devenu l'apanage de tout le monde arabe. Et un poète, resté anonyme, écrit même que la langue arabe est parmi les langues comme le printemps parmi les saisons. Cette poésie sublimée n'est pas qu'un art, puisqu'elle tire aussi sa source des mathématiques, au point que ce style de versification qui obéit à des lois très rigoureuses a inspiré les vers de Dante à Florence. Ce soir, dans l'âge d'or des sciences arabes, vous êtes les invités du prestigieux mariage entre poésie et mathématiques. Professeur Djebar, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, comment les mathématiques, la poésie et la prose arabe, sont devenus si bons amis?
Vous savez que quand l'islam arrive, l'Arabie avait derrière elle une vieille histoire de la poésie, une vieille tradition. Il y avait des petits, des moyens, des très grands poètes qui sont tellement grands qu'ils sont restés jusqu'à aujourd'hui. Et qui sont Amr al-Qais, qui sont Antar ibn Shaddad, qui sont Nabi al-Dubyani, qui sont Ash-Shanfara, etc., etc. Des dizaines. Parmi ces grands poètes qui ont écrit de la poésie comme ça, spontanément. Parce qu'à l'époque, on n'apprenait pas l'arabe à l'école. On apprenait l'arabe avec sa maman. Tous les peuples apprennent leur langue aux côtés de leur maman. Puis ensuite dans la société. Et cette époque-là, c'était l'époque de l'oralité. Et donc la langue arabe était très peu écrite. On a, pour cette époque-là, quelques épitaphes. Par exemple, nous avons l'épitaphe de Amr al-Qais. Mais sinon, c'est ce qu'on appelle une culture orale. Et donc la poésie était la fine fleur de la culture orale. Mais cette poésie, quand l'islam arrive, elle va être intégrée, bien sûr, dans la nouvelle culture qui va se développer en langue arabe. Et puis, avec le développement de cette civilisation, vous savez, le génie d'une civilisation, c'est que lorsqu'elle règle ses problèmes de la vie de tous les jours, elle va se poser tous les autres problèmes. Une société vivante ne s'interdit pas de se poser des questions.
Ah oui, de chercher à comprendre.
De chercher à comprendre.
De critiquer.
De critiquer. De
d'exprimer.
De chercher à résoudre les problèmes. Oui. Et parfois, ce sont des problèmes futiles. Parfois, ce sont des problèmes qui ne sont pas vitaux. Alors, un jour, quelqu'un qui s'appelle Al-Khalil ibn Ahmed al-Farahidi, originaire de Oman, semble-t'il. À un moment donné, il va s'installer à Basra. On a parlé longuement de Basra et de son rôle de foyer culturel et scientifique. Et là, il connaît un peu quand même les mathématiques, d'après sa biographie. Il connaît le calcul, il connaît un peu de géométrie, etc. Et puis, il s'intéresse à la langue arabe. Il s'intéresse à la poésie et à la prose. Là, on parle de poésie d'abord. Et alors, il va essayer de voir, est-ce que la poésie arabe, telle qu'elle a été produite avant l'islam et pendant cette période, est-ce qu'elle est régie par des règles qui font que, en fait, elle correspond à des structures internes qui sont tout à fait précises et que l'on peut connaître.
C'est-à-dire les histoires de vers,
de rimes, de maître, on appelle ça le maître, oui. Le bahr. Est-ce que c'est au hasard? Est-ce que le poète invente comme ça une manière de faire un poème? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule manière de faire des poèmes? Non. On constate qu'Amr al-Qais, quand vous récitez un de ses poèmes, eh bien, il y a un certain rythme. Vous prenez Shamfara, sa grande qasida, c'est un autre rythme. Donc spontanément, un poète, sans aller à l'école, sans connaître les mathématiques ou quoi que ce soit, il est loin de tout ça, il choisit selon son émotion, selon son génie, selon le problème qu'il veut évoquer, il choisit tel ou tel rythme. Et effectivement, avant l'avènement de l'islam, on savait qu'il y avait à peu près 15 rythmes. 15 mètres, comme on dit. 15 mètres, important. Et puis le poète choisit, si c'est par exemple une élégie, si c'est un poème à l'occasion de la mort d'un être très cher, si c'est pour décrire les fleurs ou la nature.
Si c'est pour encenser le puissant du moment.
Voilà, et donc les maîtres changent, parce que ça va avec les émotions, ça va avec ce qu'on veut exprimer, etc. Par contre, ce monsieur qui va venir, il ne veut pas étudier comment créer de la poésie. Ça, c'est de l'art des poètes. Il n'y a pas de règles, c'est le génie.
Oui.
Lui, il va avoir une démarche scientifique. Il va essayer de comprendre pourquoi on a été amené à avoir le maître Tawil, le maître Al-Kamel, le maître Rajaz, ça c'est leur nom, hein, le maître Mutaqarib et l'Akhiré, etc.
Donc il a adopté une démarche mathématique.
Scientifique, il va dire, je vais étudier les structures internes. De quoi c'est composé? Et alors on a raconté une légende après, parce qu'il a réussi, hein, vous allez voir, il va réussir. On a raconté une légende, on a dit qu'il a eu cette idée parce qu'un jour, donc il a eu l'idée de comment décortiquer, il va décortiquer la poésie, vraiment. Comme un élément, un appareil.
Comme un enfant décortique son jouet, voilà.
Pour voir comment il est fait.
Oui.
Et pourquoi ça marche, etc. Alors, paraît-il, un jour, il était à Médine, ou à Basra, et il allait d'un lieu à un autre tous les matins, et tous les matins, il passait devant un forgeron. Et puis, le forgeron, il fait son travail. Et le forgeron, bah, il a un marteau, et puis, il a le fer à cheval, ou n'importe quoi. Et puis, il tape comme ça. Mais il tape pas n'importe comment. Il fait pas pam, pam, pam. Parfois, il fait papam, pam. Papam, pam, papam, pam. Et puis il y a des matins où le forgeron il change. Il fait pam, papam, pam, papam, pam, papam. Et un jour on raconte, c'est comme la pomme de Newton.
Oui, il a une idée.
Comme l'Eureka, parce que les Arabes ont inventé aussi des légendes comme ça.
Oui.
Comme l'Eureka d'Archimède.
Oui.
Il a dit Eureka. Enfin, il n'a pas dit en grec, hein. Il a dit en arabe.
Mais ça revient au même.
Il a dit, ça y est, j'ai trouvé. Alors on raconte qu'il a compris que le forgeron suivait un rythme, mais ces rythmes étaient la composition de rythmes élémentaires. C'est quoi ces rythmes élémentaires? Alors c'est le Khalil ibn Ahmed qui est le premier, va développer une théorie que je vais expliquer très très simplement. Il va dire, la langue arabe c'est quoi tout simplement? C'est quoi? C'est des sons. Et ces sons, c'est haraka sukun. C'est-à-dire un son qui bouge, un mouvement, et puis un son inerte. C'est haraka sukun. Par exemple, quand on dit pam, il y a le pas, le mouvement. C'est l'arrêt. Pam. Donc il dit, ben voilà, je vais représenter le pas. Tout ce qui est son qui bouge, je vais le représenter par zéro. Parce qu'il connaissait les chiffres indiens.
Oui.
Et tout ce qui est sukun par 1. Et donc, puisque le forgeron, il fait papam, pam, papam, pam. Alors, papam, c'est quoi? 0, 0, 1. 0, 1. Et il a découvert qu'en fait, c'était des combinaisons de 0 et de 1. Mais qu'est-ce que c'est que des combinaisons de sons? Eh bien, c'est de la combinatoire. C'est les premiers pas de l'analyse combinatoire qui va être plus tard un chapitre des mathématiques qui n'existait pas.
Chapeau. Hein, voilà. Vraiment.
J'espère que les auditeurs ont compris, hein. Et donc, ce qui est très joli aussi, c'est que, en fait, il a utilisé quoi? Eh bien, il a utilisé 2000 ans avant l'informatique,
c'est ce, que
ce qui est
vous
basé
dire,
sur l'informatique, qui est 0, 1, 0, 1, 1, 0, les combinaisons de 0 et de 1, qui est passage du courant et non passage de courant. Bon, ça n'a rien à voir. Mais pour vous dire que le génie d'un homme, c'est une investigation scientifique. Ah, maintenant, il faut qu'il construise une théorie. Donc, il va construire une théorie subtile. Et il va dire, ben voilà, on va prendre un poème et on va constater, en fait, que c'est d'abord des petites combinaisons comme ça, pam, papam. Donc, il va isoler toutes les combinaisons élémentaires. Alors, il va dire, papam, c'est une combinaison. Pam, c'est une combinaison. Pam, pa, c'est une combinaison. Puis, il dit, en combinant tout ça par des permutations circulaires, je peux écrire tous les maîtres de la poésie arabe. Et il réussit. Et il le fait avec 5 cercles. Et donc, il invente les fameux 5 cercles de la poésie arabe. L'adouar, comme on dit, qui seront aussi les cercles de la musique arabe. Vous avez remarqué qu'en fait, tout ce que je dis sur la poésie, ben
c'est applicable à la musique.
Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes de rythme.
Oui. C'est clair.
Et donc, c'est la raison pour laquelle les musiciens plus tard, les théoriciens arabes, vont utiliser aussi ces cercles. Et donc, à partir de ce moment-là, on va appeler ces cercles les cercles d'Al-Khalil ibn Ahmed. Donc, il a établi scientifiquement que la poésie arabe ne peut pas sortir de structures, en fait, mathématiques, même si le choix de ces structures, on le laisse évidemment au poète et à son génie. Il choisit tel maître, tel maître, tel maître. Mais il ne peut pas échapper aux structures mathématiques qui sont sous-jacentes à ce qu'il va écrire. C'est très joli. C'est comme si on soumettait la poésie à des lois mathématiques. Cette découverte théorique, très très importante, va avoir de la suite. Parce qu'un de ses élèves qui s'appelle Al-Arfesh, il s'est dit, mais la théorie de mon maître, elle marche très bien. Et puisque avec cette théorie, il explique vraiment comment sont constitués les 15 maîtres. Mais la théorie peut nous permettre de créer de nouveaux maîtres. Il suffit de changer de combinaison.
Tout simplement.
Lui, il a montré que tous les maîtres arabes, de Mr'Urqais, de Shamfara, etc., etc., étaient soumis à des types de combinaisons. Mais si on change de combinaison, on a des maîtres. Alors, il y a des gens qui vont essayer de créer de nouveaux maîtres. Donc, vous voyez, des éléments de mathématiques, très simples, très combinatoires, vont ouvrir une nouvelle voie pour une nouvelle création, cette fois-ci en poésie. Peut-on faire des vers avec de nouveaux maîtres? Eh bien, Arfesh a inventé un 16e maître qui existe jusqu'à aujourd'hui. Et on a inventé d'autres maîtres, sauf que ça n'a pas marché. Ah, alors là, se pose une question fondamentale entre science et art. La poésie, c'est de l'art. C'est pas parce que la science vous donne la liberté, la possibilité de créer quelque chose, parce que les mathématiques vous disent, c'est possible. Vous pouvez créer un 17e mètre, 18e mètre. Alors le poète, il écrit un poème avec le 17e mètre, il va le présenter, c'est pas aussi joli. Les phrases sont belles, mais le rythme n'est pas aussi beau que les 15 et 16 mètres. Et là se pose la question, est-ce que par hasard, les grands poètes arabes, avant Al-Khalil Ahmed, n'avaient pas eux-mêmes découvert ces mètres sans science? Mais ils les ont abandonnés parce que la science se heurte à un moment donné quand elle est au service de l'art, elle se heurte aux règles de l'esthétique, au sens esthétique. Et là, la science, elle doit reculer. La science doit être humble et modeste. Elle est prestataire de service. Elle explique, elle éclaire, elle ouvre de nouvelles voies, elle établit des résultats. Mais tout ce qu'elle fait n'est pas utilisable. Parce qu'il y a d'autres critères qui interviennent dans la vie des êtres humains, parce que les êtres humains sont subjectifs par nature.
Ah oui, il y a l'émotion, il y a plein de choses.
Donc ils peuvent refuser certains résultats, non pas parce qu'ils sont faux, mais parce que ça ne fait pas vibrer.
Vous avez parlé de la langue arabe, hein,
oui,
vous l'avez évoqué,
oui.
Et c'est un peu la façon dont elle s'exprime qui a provoqué ces travaux de nature mathématique.
Alors, la langue arabe, elle aussi, va provoquer une autre démarche. Et d'ailleurs, dont l'initiateur est aussi le Khalil ibn Ahmed. C'est pas étonnant, parce que vous allez voir, ce sont les mêmes outils mathématiques qui vont intervenir. Donc, il a eu une intuition. Entre parenthèses, j'ai oublié de dire que le Khalil ibn Ahmed, c'est très très tôt hein, dans la civilisation. Il est du 8e siècle. Il est mort vers 795. Et donc, ça contredit l'idée qui a été diffusée en Europe pendant longtemps que les Arabes et les musulmans ont dû attendre qu'ils aient traduit tous les ouvrages pour commencer à faire des travaux intellectuels et des théories. Nous sommes à la fin du 8e siècle. Les traductions ont à peine commencé. Et donc, on n'a pas attendu la fin des traductions pour que des initiatives, des intelligences se lancent pour ce qu'on appelle des activités intellectuelles en général. Mmh. Surtout celles qui n'avaient pas besoin des traductions. Comme l'étude de la langue arabe, l'exégèse du Coran,
oui,
l'authentification des paroles du prophète, l'étude de la grammaire, de la morphologie, de la lexicographie. Ça, on n'a pas besoin des Grecs. Alors, je reviens à votre question. Al-Khalil ibn Ahmed, lui, s'est posé une deuxième question qui n'est pas une question uniquement comme ça d'intellectuel qui veut réfléchir. Mais le problème de la langue arabe est beaucoup plus sérieux, si j'ose dire, parce que c'était une demande, une sorte de commande de la société. Nous sommes au 8e siècle. La langue arabe, c'est la langue du Coran. Le Coran, c'est l'islam. Avec l'islam, il y a le nouveau pouvoir. Le nouveau pouvoir a réussi à conquérir un empire monde, comme on le dit dans ses émissions tout le temps, et j'insiste, et vous insistez, vous avez raison. Un empire monde qui va englober des centaines de peuples et de populations qui ne parlaient pas l'arabe. De Samarcande à Saragosse, de Palerme à Tombouctou. Et il y avait des centaines et des centaines de langues parlées, des dizaines de langues écrites. Il y avait des cultures tout à fait estimables. Et puis ces gens-là vont être les nouveaux sujets du pouvoir. Certains vont devenir musulmans. Pour qu'ils deviennent bons musulmans, il faut qu'ils connaissent l'arabe. Donc comment leur apprendre l'arabe? Mais apprendre l'arabe à un non-arabe, c'est pas la même chose qu'apprendre l'arabe à quelqu'un qui est né arabe.
Oui.
Et c'est avec cet arabe que Dieu s'est exprimé pour que les gens le comprennent d'abord en Arabie. Donc il faut une pédagogie. Il faut des démarches scientifiques pour inculquer à des individus sujets de l'Empire la langue du pouvoir, la langue de la religion. Et là, pour pouvoir le faire correctement, il faut connaître les structures de la langue. C'est tout simple.
C'est indéniable.
Donc, il faut étudier la grammaire de l'arabe. Il faut étudier la morphologie de l'arabe. Or, les Arabes, pendant des siècles et des siècles, parlaient l'arabe sans jamais savoir ce que c'était que la grammaire, ce que c'était que la morphologie.
Comme tous les peuples au départ, je suppose.
Ce que c'était que la lexicographie. Parce que qui dit lexicographie? C'est la science du dictionnaire.
Oui.
On n'a jamais vu Chamfara avec un dictionnaire pour faire son poème. C'est pas possible.
Non.
Ça doit faire rigoler les auditeurs.
Ça n'aurait plus la même poésie aussi.
Surtout que c'était un brigand, hein. Il était tout le temps en train de cavaler et de courir. Chamfara, c'est un très grand brigand, oui. Il faisait des poèmes, comme ça, quand il avait le temps, en courant, derrière des lions. D'ailleurs, paraît-il, il courait aussi vite qu'un lion. Il pouvait attraper un lion,
entre
d'ailleurs.
Entre razzia, comme
oui,
ça.
Absolument. Et alors donc, il fallait des outils pédagogiques. Et alors, c'est le Khalil ibn Ahmed qui va commencer. Parallèlement, Sibawi, après lui, va s'occuper de la grammaire. Lui, il va s'occuper de linguistique et de lexicographie. Et il va se dire, cette langue arabe, comment elle est constituée? Oui, la même question que tout à l'heure. La poésie arabe, comment elle est constituée? La langue arabe, comment elle est constituée? Il va faire le premier, ce qu'on appelle l'analyse phonétique de la langue arabe. La langue arabe a 28 phonèmes. Bon, aujourd'hui, on dit que ce sont des lettres de l'alphabet, etc. Mais en fait, ce sont des sons.
Oui.
C'est pas des syllabes.
C'est toute la différence.
C'est toute la différence. Et les phonèmes, il va les classer. Déjà, une attitude scientifique. Il va dire, il y a les phonèmes qui sont juste au bout des lèvres. Puis les phonèmes où intervient la langue pour les prononcer. Puis les phonèmes où intervient le fond de la langue. Puis ensuite le larynx. Puis ensuite le fond de larynx. Il fait une classification selon la prononciation des phonèmes qui va du bas, qui est le plus facile et le premier, jusqu'au dernier, qui est quoi ? Devinez, le aïn. Le a, c'est le dernier. Et c'est la raison pour laquelle son livre de linguistique, qui est un monument, comment il s'appelle ? Je vous le donne en mille. Le livre du aïn. Le livre du son arabe le plus difficile et le plus lointain dans la morphologie même physique de l'individu. Même le titre, il ne l'a écrit qu'après. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire, eh bien, je constate que la langue arabe, c'est en fait une combinaison. Ah, voilà la combinatoire. Une combinaison de sons. Quand vous dites « Jabara », « Jabara », c'est le son « Dieu », le son « Be » et le son « Re ». Bon. Oui. Mais si vous dites « Baraja », ce sont les mêmes sons, mais juste vous les combinez autrement. Donc, ce n'est pas seulement une question de composition, mais une question de combinaison. Mm-hmm. Combinaison, vous allez voir, les mathématiques vont intervenir, qui sont beaucoup plus complexes que ce que je viens de dire. Pour résumer, il a dit « Je vais commencer d'abord par compter les mots, les racines de la langue arabe. » Parce que la langue arabe est construite sur des racines. Il y a des mots qui ont un seul son. Quand on dit « Ah, ya », donc il y a un son. Alors là, c'est simple, il y a 28 sons. Quels sont tous les mots qui ont deux sons ? Il a voulu les calculer. Il donne un nombre. Alors nous avons la formule aujourd'hui. Je prends ma calculette, j'utilise la formule et je dis « Ah, c'est juste ce qu'il a calculé ». Mais on ne sait pas comment il l'a calculé, il n'avait pas la formule. Ensuite, il dit combien il y a de racines, hein, de trois sons. Et il donne le résultat. Ensuite, il le fait pour 4, il le fait pour 5. Vous vous rendez compte ? Quels sont tous les mots de la langue arabe ? Quelles sont toutes les racines de la langue arabe qui sont de 5 lettres ? Figurez-vous qu'il a trouvé presque 100 000. Donc, puisqu'il y a 100 000, c'est qu'il est préférable qu'il ait une formule. Parce que si maintenant on cherche quels sont tous les mots qui sont de 6 lettres, de 7 lettres, de 8 lettres, ça va être des centaines de milliers.
Oui, on en finira
ou des millions. Donc, il ne pourra plus. Or, comme par hasard, il n'a fait que le calcul pour 2 lettres, 3 lettres, 4 lettres, 5 lettres, il s'est arrêté. Alors, comme il s'est arrêté, nous, on le soupçonne vraiment de ne pas avoir la formule. Parce que s'il veut avoir tous les mots, il faut qu'il fasse ce qu'on appelle une énumération. Il l'a faite pour 2 lettres. Il l'a faite pour 3 lettres, 4 lettres, 5 lettres. Mais 5 lettres, déjà, il a eu 100 000. Donc, il a dû perdre beaucoup de temps. Ou alors, il a demandé à ses étudiants, qui sont des esclaves, les pauvres, de faire le compte, de faire l'énumération. Ils ont dû faire ça pendant des journées. Et sans se tromper, parce qu'il faut savoir compter d'une certaine manière. Nous nous disons, nous sommes à la fin du 8e siècle. Al-Khalil va ouvrir une brèche, va ouvrir une voie. Il a calculé. Et le fait qu'il n'ait pas calculé les autres, là, il révèle qu'il y a encore du travail à faire. Et effectivement, à partir de là, vont venir d'autres linguistes, des grammairiens, des linguistes, comme Ibn Dureid, comme Ibn Jinni, et ils vont essayer d'aller plus loin. Ils vont calculer non seulement le nombre de racines, mais ils vont calculer le nombre de racines en tenant compte cette fois-ci de la réalité. C'est-à-dire que les racines, il faut aussi les permuter, il faut tenir compte des répétitions, parce qu'il y a des noms qui ont deux B, deux R.
Est-ce que vous pouvez donner un exemple pour les auditeurs ?
Si vous prenez par exemple Dalila,
oui.
Il y a D, L, L, il y a trois lettres. Mais le L est répété.
Oui.
Par contre, Jabara, aucune lettre n'est répétée. Donc, si on veut calculer tous les mots où les lettres ne se répètent pas, c'est beaucoup plus facile. Mais si on tient compte du fait que les lettres peuvent se répéter, deux lettres se répètent, lem, lem, da, li, la.
Oui.
Trois lettres se répètent, quatre lettres se répètent. Ensuite, il faut ajouter les voyelles et les soukounes en arabe.
Oui.
Les voyelles, il faut les mettre dessus. C'est un problème horriblement compliqué qui n'a pas été résolu ni au 9e siècle, ni au 10e siècle, ni au 11e siècle. Par aucun mathématicien d'aucune civilisation. Problème difficile. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ils vont avoir une idée géniale. Les mathématiques n'étaient pas prêtes. On a posé la question aux mathématiciens. Ils n'étaient pas prêts. Pourquoi ? Parce que le problème est difficile. En général, les linguistes, les physiciens, les chimistes, les astronomes, quand ils posent des problèmes aux mathématiciens, ils posent un problème brut qu'ils rencontrent de la vie. Le mathématicien, lui, le pauvre, il a besoin de le simplifier pour trouver des petits résultats. Puis ensuite, il va le complexifier jusqu'à trouver le grand théorème. Lui, il a une démarche d'aller-retour. Les autres ne comprennent pas. Ils le traitent de feignant, de lent. Le rythme des mathématiques, c'est comme ça. Mm-hmm. Hein, c'est un métier comme ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Les mathématiciens ont été incapables de répondre à cette question très élémentaire. Très élémentaire. Quel est le nombre total de mots que peut exprimer la langue arabe en tenant compte des répétitions des lettres, des permutations et surtout de la haraka et du sukun ?
Oui, alors,
parce que c'est le génie de la langue arabe.
Comment ils ont fait, puisque les mathématiques, en fait, ne répondent pas aux questions des mathématiciens, des spécialistes, de la métrique et de la linguistique. Comment ils ont fait ?
Alors là, ils vont avoir une idée, c'est d'appeler au secours la technologie.
C'est-à-dire ?
Et les mathématiques démontrent, les mathématiques élaborent. Ils ont inventé un procédé. Alors, on le trouve chez Ibn Dureid, on le retrouvera plus tard, d'ailleurs, même chez Ibn Arabi, le grand soufi. On le retrouvera même chez Ramon Loul, un grand intellectuel chrétien du XIIIe siècle de Barcelone. qui est d'ailleurs venu visiter Tunis et Béjaïa au XIIIe siècle. Et ce sont des cercles concentriques. Donc vous prenez un morceau de bois, que vous l'entourez d'un anneau, mais qui tourne. Hein. Vous vous arrangez pour que technologiquement ça marche, bien sûr. Donc le cercle, vous mettez les lettres que vous voulez permuter. Vous mettez, par exemple, Jabara. Jabara. Jimbara. Ou bien ABC. Et puis vous voulez chercher tous les mots que l'on peut fabriquer avec ABC, en tenant compte des permutations, des répétitions, etc. Comme ils n'ont pas de théorème, hein, qui va être trouvé beaucoup plus tard. Vous mettez un anneau autour, vous mettez ABC aussi, ABC. Mais l'anneau glisse, hein, il tourne.
Ah,
vous mettez un deuxième anneau.
D'accord.
Vous mettez ABC, un troisième anneau.
Oui, oui, oui.
Si c'est un mot de trois lettres, quatre lettres, etc. Mm-hmm. En tournant l'anneau, vous mettez côte à côte ABC, mais vous pouvez mettre AAB, AAA, ABB, BAC, en tournant patiemment. Il ne faut pas oublier des mots. Mais enfin, c'est une solution. Et c'est la première solution et qui va rester longtemps la seule solution technique qui est complète. Hein. Elle donne les résultats complets pour n'importe quelle lettre. Parce que si vous voulez avoir des mots de 5 lettres, 6 lettres, vous ajoutez les anneaux. Puis vous payez les esclaves. Hein. Vous faites travailler les esclaves pour faire tourner les anneaux comme d'habitude. N'empêche que, qu'est-ce qu'on tire de tout ça? Nous sommes dans une civilisation qui crée. Nous sommes dans une civilisation, une société qui sont dynamiques.
Qui trouvent des solutions à des problèmes horriblement complexes.
Voilà, qui sont offensives. Bien sûr, quand on est offensif, quand on est créateur, on arrive toujours à des obstacles. Mais dans une civilisation sous-développée, quand on a un obstacle, il reste obstacle jusqu'à l'éternité.
Oui. Hein,
et on attend que le miracle arrive. Mais quand une société est offensive, elle construit son destin. Elle construit, elle n'attend pas qu'on lui apporte le destin de l'extérieur. Elle construit son destin. Elle va se tromper, elle se trompe souvent. Mais elle trouve des solutions provisoires. Mais ce n'est pas grave. Ça lui permet d'avancer. Une civilisation qui est dynamique, elle avance. Elle ne stagne pas, elle ne recule pas. Elle va vers l'avant et elle va vers l'inconnu. Ce qui les distingue de la poésie, de la littérature, c'est que leur destin même, c'est d'aller vers l'inconnu. C'est de s'intéresser à l'inconnu. Hors de l'inconnu, point de salut. Ça paraît paradoxal. L'inconnu, quand on le grignote avec les outils humains, les démarches humaines, eh bien, il devient de moins en moins inconnu.
Est-ce qu'il y a une suite, justement, à tout ça? Et est-ce que, en fait, ça a permis de créer une tradition?
Heureusement qu'il y a une suite. Donc, ils ont trouvé cette solution, mais les gens cherchaient des théorèmes, des formules. C'est beaucoup plus souple que de trimballer tout le temps, si j'ose dire, des instruments comme
oui,
ça.
Oui, avec les anneaux et
bien
tout,
sûr.
C'est pas évident.
Bien. Alors, il faut attendre le XIIe siècle. Évidemment, parallèlement, d'autres problèmes qui sont de nature combinatoire vont se poser en astronomie, en mathématiques même, et qui sont difficiles, et puis les mathématiciens ne trouvent pas de solution. Ne croyez pas qu'il n'y a que les littéraires qui ont embêté les mathématiciens. Non, non, non. Les mathématiciens eux-mêmes, les astronomes, les musiciens sont tombés sur des problèmes qui sont de même nature, et les mathématiciens étaient...
Bon, impuissants.
Impuissants.
Et à pouvoir attendre. Résoudre.
Et au XIIe siècle... Le problème est reposé régulièrement, il est reposé à Marrakech. Alors là, ça va me permettre de montrer un apport des Maghrébins. À Marrakech, nous sommes au XIIe siècle, à l'époque du quatrième calife Almohade. C'est l'époque où Marrakech est la capitale de l'Occident musulman, à la fois du Maghreb, tout le Maghreb, et l'Andalous. Et donc, c'est la capitale. Hein. Les autres sont des villes provinciales. Pourquoi? Parce que la dynastie Almoravide a créé cette capitale, la première dynastie qui a créé un empire. Ensuite, elle a été chassée par les Almohades, Mouahidoun, qui vont garder la capitale, Marrakech.
Mm-hmm.
Et Marrakech va devenir non seulement la capitale de la seule puissance économique, politique et militaire de la Méditerranée occidentale, mais elle va devenir l'un des plus grands foyers scientifiques de l'Empire musulman, en général, pas seulement de l'Occident. Et alors, nous sommes à la fin du XIIe siècle, et puis il y a un mathématicien qui s'appelle Ibn Mon'im, qui était en fait originaire de Denia, une petite ville d'Espagne musulmane.
Oui, vous nous en avez parlé dans une précédente émission.
Voilà,
oui.
Et qui lui... Parce que la capitale attire toujours les meilleurs. Comme aujourd'hui, une grande partie de nos compétences sont attirées par les pôles, par la lumière, là où ils peuvent travailler, ils peuvent s'épanouir. Et donc, surtout qu'à son époque, XIIe siècle, la Reconquista grignotait les territoires et les villes musulmanes.
Conquises par les musulmans.
Et donc,
oui.
Les savants n'étaient plus à l'aise dans des villes qui étaient contrôlées par les chrétiens et le mode de vie était en train de changer. Donc, il va à Marrakech, il s'installe. Un mathématicien ne peut pas vivre d'une manière très aisée avec son travail. Il a décidé de faire de nouvelles études. Il a fait de la médecine. Et il est devenu médecin. Il a ouvert un cabinet. Et puis, le matin, il soignait les malades. Et l'après-midi, le soir, très tard, dit son biographe, Ibn Abdelmalek, eh bien, il faisait des mathématiques pour son plaisir. Et comme il était dans la cour, comme c'était l'époque de Muhammad al-Nasr al-Dinillah, le quatrième calife, c'était encore des califes très prestigieux, hein, vraiment très très importants. Il y avait Abdul Mumin, puis Abu Yaqub Yusuf, Abu Yusuf Yaqub, et puis Muhammad al-Nasr al-Dinillah. Et alors, ils ont créé donc toute une émulation où on discutait des problèmes. On discutait des problèmes de culture, on discutait des problèmes scientifiques, astronomiques, philosophiques. Et parmi les problèmes qui étaient discutés, ce problème de Khalil ibn Ahmed qui n'était pas résolu encore. Quels sont tous les mots que peut exprimer la langue arabe? Est-ce que le nombre est infini? Est-ce qu'il est fini? Et puis, est-ce qu'on peut le connaître? Eh bien, il s'est attaqué à ce problème. Et c'est lui le premier, pas seulement dans l'Empire, dans l'histoire de l'humanité. C'est lui le premier qui a rédigé et publié non seulement tous les résultats, que je vais vous donner rapidement, mais un chapitre entier sur ces problèmes. Et c'est comme ça qu'il a ouvert une nouvelle voie, un vrai chapitre, qu'on appellera plus tard l'analyse combinatoire. Avant, c'était une sorte de bricolage, de pratique comme ça, empirique, comme vous l'avez bien dit au début. Mais là, ça va être cohérent. Son livre s'appelle « Fiqh al-Hisab », ça veut dire « La science du calcul ». Il réserve un chapitre, qui est le chapitre numéro 11, et il commence par des définitions précises. Il rappelle d'abord que ce problème a été déjà posé par Al-Khalil ibn Ahmad au 8e siècle. Vous vous rendez compte? Ce lien culturel. C'est un grand mathématicien qui pose ce problème. Et donc, on voit bien que c'est vraiment la production d'une société donnée avec sa culture, avec sa langue, avec ses traditions intellectuelles. Et il dit, on n'a pas trouvé la solution, je vais vous la donner. Donc pour cela, je vais généraliser le problème. Je vais poser la question, étant donné une langue, n'importe laquelle. Il dit, parce que la langue arabe, elle a 28 lettres. Mais il dit, même chez nous, il parle du Maghreb, il dit, même chez nous, il y a une langue qui a plus que 28 lettres, qui a des sons que l'arabe n'a pas, comme le « che », comme on dit « amich ». Il pensait au berbère. Vous vous rendez compte?
Oui.
Donc là, on voit bien d'ailleurs que le berbère était encore vivant. Le persan, il dit, le persan aussi a des sons, quel que soit le nombre de lettres de l'alphabet. Je vais faire une théorie générale. Donc il part d'un problème particulier.
Ça, c'est une démarche mathématique.
Une démarche mathématique. Oui. Parce qu'il en a les moyens maintenant. Et alors, il définit ce que c'est que les combinaisons, ce que c'est que les permutations, ce que c'est que les permutations sans répétition, avec répétition, ensuite les combinaisons avec répétition, et petit à petit, avec une douzaine de propositions, il démontre rigoureusement avec les outils de l'époque, avec ce qu'on appelle le raisonnement par récurrence faible, par induction, avec des techniques de tableaux, il réussit à la fin, après 19 pages, de donner des tableaux qui permettent de donner exactement le nombre de mots de 2 lettres, 3 lettres, 4 lettres, n'importe quoi, avec répétition, sans répétition, etc., que peut prononcer n'importe quelle langue.
Alors dites-moi, Dalila, il est placé où dans ce tableau?
Et il est dedans, quelque part.
Merci.
Dans les millions et les millions
Ahmed
de mots.
Aussi.
Ahmed aussi. Dans les millions et les millions de mots, il est dedans. Et donc, il est le premier à avoir établi ça. Et ces résultats ne vont être redécouverts en Europe qu'au XVIIe siècle, par Fresnel et puis par Pascal. Et d'ailleurs là, à cette occasion, il donne le triangle de Pascal.
Le fameux triangle de Pascal. Sur ce triangle de Pascal, est-ce que les contributions de ce mathématicien ont lien avec des mathématiciens maghrébins des 12e et 13e siècles?
Alors, pendant longtemps, on a pensé que son travail était isolé. Je n'ai pas précisé aux auditeurs, c'est moi qui ai découvert ce manuscrit, c'est moi qui l'ai analysé il y a 25 ans, et je l'ai fait découvrir au monde, et d'ailleurs, les chercheurs aux États-Unis, au Canada, etc., ont commencé à me connaître à partir de ce travail. C'est pas moi qui ai découvert le manuscrit en tant que tel, mais c'est moi qui ai exploité pour la première fois, parce que le manuscrit était à la bibliothèque de Rabat.
Oui.
Un autre collègue avait déjà utilisé le manuscrit, mais c'est moi qui ai remarqué que ce chapitre était très important. Et donc je l'ai analysé, je l'ai traduit, je l'ai même publié, le texte en arabe et avec la traduction française. Bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi-même, j'ai cru que c'était une sorte de météore quoi, dans le ciel. En fait, non. Ce travail va ouvrir la porte, va prolonger plutôt, parce que Al-Khalil ibn Ahmed a ouvert la porte, va prolonger cette tradition. Et on peut considérer vraiment que l'analyse combinatoire va se constituer comme chapitre autonome, même si elle n'a pas eu le nom, le statut, au Maghreb. Puis ensuite, évidemment, il faut attendre 3 siècles ou 4 siècles pour que l'Europe reprenne ça, mais avec une autre démarche, qui est avec les jeux de hasard, et non pas avec la langue, parce que chaque peuple a son génie. Et alors, nous pensons que son élève, qui s'appelle Al-Qadhi Sharif, a probablement développé le travail de son maître, ou au moins commenté. Malheureusement, son livre est encore perdu, donc c'est une hypothèse de chercheur.
D'accord.
Nous savons qu'il a écrit un grand livre, Al-Qanun fil Hisab al-Fara'id, donc pour le canon sur le calcul et les sciences des héritages, et nous pensons qu'il a sûrement au moins expliqué à ses élèves et développé avec des exemples le travail de son maître. Pourquoi? Parce que son élève à lui, cette fois-ci, vous voyez, une autre génération, vous vous rendez compte, il s'appelle Ibn al-Banna, qui est de Marrakech aussi. Ibn al-Banna, c'est-à-dire le fils de l'architecte, hein, tout simplement, ou du maçon. Lui, dans 2 de ses livres, il va reprendre certaines questions du grand professeur. D'ailleurs, il va reprendre dans un premier livre, dont j'ai découvert une copie à Alger, hein. Elle dormait comme ça depuis des siècles.
La bibliothèque,
la Bibliothèque nationale, bien sûr, oui, je l'ai découverte. Personne ne connaissait l'importance. Il n'y avait qu'une demi-page d'intéressante. Il dit d'ailleurs, il critique son maître. Il critique. Mais pour qu'un élève critique son professeur...
Il faut qu'il soit arrivé lui aussi à un certain niveau, oui.
Et rassurez-vous, il le critique avec beaucoup de déférence. Notre maître, Ibn Mun'im, a dit ceci et cela. Il a établi un tableau, il parle du triangle de Pascal, il a établi un tableau qui permet de donner le nombre de mots de la langue arabe. Il dit, mais moi, je vais aller plus loin. Il dit, je suis le premier à avoir établi une formule mathématique qui donne les combinaisons de n objets PAP. Or, cette formule a toujours été attribuée à Pascal au XVIIe siècle. Et il donne la formule et on ne sait pas comment il l'a découverte. Et elle est juste. Et elle est générale pour n quelconque cette fois-ci. Et elle évite d'utiliser des tableaux parce que les tableaux c'est lourd, c'est comme les disques là. C'est presque de la technologie. Il faut le faire, le construire, l'agrandir. Et ça, je n'ai pas la place pour le développer. Comme disent les grands maîtres. Et puis j'ai eu la chance de découvrir un autre de ses livres qui lui fait 200 pages ou 300 pages qui s'appelle Le lever du voile sur les opérations du calcul. Parce qu'ils avaient beaucoup d'humour, hein. Le lever
parce
du voile.
C'est très poétique les titres.
Ah oui, parce qu'il fait allusion aux femmes. C'est le lever du voile sur les opérations du calcul. Et un autre après lui, un commentateur qui est un Algérien, de Constantine, il va écrire un livre, il va l'appeler « L'abaissement de la voilette sur les opérations du calcul
». Il fallait le faire, ça, il fallait l'écrire.
Et un troisième est venu d'ailleurs, et il était furieux parce que l'autre lui a pris le titre. Il a fait un commentaire, c'est un Andalou, il s'appelle Ibn Zakariya al-Andalusi. Il était furieux, il voulait faire des jeux de mots, alors il a sorti un livre, lui il l'a appelé « L'abaissement de la voilette après le soulèvement du voile sur les opérations du calcul.
Il manquait pas d'humour en plus.
Absolument. Et alors donc, ce mathématicien, pour résumer, dans son livre, le deuxième livre, qui est un gros livre de philosophie et de mathématiques, qui a d'ailleurs été édité par un de mes étudiants qui est professeur maintenant au Maroc, eh bien, il va démontrer. Il va établir, point par point, comment trouver la formule qui donne ce qu'on appelle les combinaisons de n objets PAP, quel que soit n, quel que soit p. Et il donne une démonstration tout à fait ce qu'on appelle par récurrence faible. Et il va plus loin. Il dit, ces démarches combinatoires, et on peut les utiliser pour résoudre des problèmes. Alors c'est là où ça devient important, parce que quand Khalid Ahmed ouvre la porte, c'est l'inconnu. Ensuite, on trouve des petites solutions. Ensuite, il y a quelqu'un qui va résoudre tous les problèmes. C'est-à-dire qu'il va faire une sorte de début d'une théorie. Mais une théorie n'est complète que si elle a un domaine d'application. C'est-à-dire qu'on revient, bien sûr, elle a permis de résoudre le problème de Khalil, mais il faut qu'elle ait un domaine d'application qui n'est pas un seul problème. Il faut qu'elle puisse être un outil pour beaucoup de problèmes.
Absolument.
Eh bien, Ibn al-Banna va montrer que ça peut servir. Alors, les Maghrébins, de manière générale, ces étudiants aussi, vont montrer qu'on peut calculer le nombre de fractions. Plus tard, quelqu'un va montrer qu'on peut calculer le nombre d'équations de degré n quelconque, même celles qui n'ont pas été résolues par les Arabes et les musulmans. Ils ne savent pas les résoudre, mais ils savent les compter. Et alors, ils trouvent des formules très belles. C'est un mathématicien qui a connu les travaux du Maghreb, mais qui est un Égyptien, qui s'appelle Ibn al-Majdi, mort en 1429. Et alors, Ibn al-Banna, pour bien montrer qu'il y a même des problèmes de la société qui préoccupent les juristes, les religieux, les praticiens même, les fidèles. On peut les résoudre avec ces nouveaux outils. C'est Et ça. Alors, il pose un problème très très joli. D'abord, il dit, est-ce qu'on peut compter tout le nombre de phrases que l'on peut produire à partir d'une seule phrase, mais en tenant compte de la langue arabe, de la grammaire. Par exemple, « Zaraba zaribu shatimu al-qatilu muhibbaka widdaka » Il donne cet exemple. Il y a une phrase comme ça. « Zaraba zaribu shatimu » C'est-à-dire, le frappeur, il a frappé celui, etc., etc. Bon. Est-ce qu'on peut la lire autrement en tenant compte de la grammaire? C'est-à-dire, est-ce que complément d'objet direct? Est-ce que le mot qui est maintenant complément dans ma lecture, il ne peut pas devenir sujet, il ne peut pas devenir complément de nom? Il dit, compte tenu des règles de la grammaire arabe, à partir de cette phrase lue comme ça, on pouvait la lire de 278 000 manières.
278 000
et quelques des poussières. Et c'est écrit dans son livre, et je l'ai. Si des auditeurs sont intéressés par ces résultats, je peux leur envoyer par votre intermédiaire, par l'intermédiaire de la chaîne 3. Parce qu'en France, on m'écrit, hein. On m'écrit pour des documents. Alors ça, c'est un premier problème. Deuxième problème très joli, il dit, il y a un problème qui n'a jamais été résolu. On a trouvé des solutions, mais ces solutions sont trop nombreuses. Il faut trouver juste la solution qui ne demande pas beaucoup d'énergie. Vous allez voir, vous allez sourire, ils avaient un humour extraordinaire. Et ça concerne la religion. Il dit, si quelqu'un oublie de faire des prières, il oublie aujourd'hui une prière. Demain, il oublie une autre prière. Puis dans un mois, il oublie une troisième prière. Mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il a oublié exactement.
Oui, oui.
Il ne sait pas s'il a oublié le Maghrib ou l'Asr, etc. Donc, combien de prières, à la fin, il doit faire pour être sûr qu'il
a fait le nombre.
Qu'il a fait tout le nombre qu'il faut. Alors, si on le pose comme ça, c'est simple. Mais on oublie que nous sommes au Maghreb. Que l'école religieuse du Maghreb, c'est le malikisme. Et le malikisme, il pose une condition. Si quelqu'un oublie des prières, il faut qu'il les rende à Dieu, mais dans l'ordre de l'oubli.
Et comment on va pouvoir se rappeler puisqu'on a oublié?
On ne sait pas si on a oublié la première, c'est le Maghreb ou c'est l'Asr. Eh bien, à partir de cette incertitude, voilà, un premier problème qui contient de l'incertitude, va être résolu par un problème de combinatoire. Alors il va dire, écoutez, c'est le même problème que ce problème suivant. Donc il va d'abord résoudre un problème abstrait, qui est, étant donné une combinaison A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G. Quelle est la configuration la plus longue qui contient A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, vous répétez. A, B, C, D, E, F, G. Vous lui ajoutez A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, etc. Tel que, dans cette lignée, il y a l'ordre que vous cherchez. L'ordre, c'est en fait, par exemple, c'est F, G, C, B, D, A. Mais vous le savez pas. Vous mettez A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G. Et vous vous arrêtez à un moment donné. Alors là, c'est le théorème que vous lui donnez. Vous êtes sûr que vous arriverez à trouver l'ordre, vraiment. Même si vous ne le connaissez pas. Parce qu'il y a tous les ordres. Tous les ordres, c'est un problème de permutation. Et donc, il trouve le théorème. Il dit, si le nombre de prières est N quelconque, alors qu'il n'y en a que 5.
Oui.
Donc, c'est une démarche théorique.
Oui.
Ici, il y en a N. Eh bien, vous prenez les N lettres, vous les ajoutez N lettres, vous faites NN-1, vous ajoutez la première, n'importe laquelle, la première, plus 1. Là, vous êtes sûr que vous trouverez la combinaison que vous avez oubliée. Et il dit, évidemment, si vous faites le calcul, vous faites beaucoup moins de prières que le résultat qu'on vous donnait avant. Parce que le résultat qu'on vous donnait avant n'était pas mathématique. Le mien est mathématique. Donc les mathématiques sont venues au service des fidèles pour ne pas qu'ils fatiguent trop en faisant des prières. C'est très joli.
Et
ça.
En faisant le nombre de prières qu'il faut.
Absolument.
À ça, je suppose que beaucoup de personnes vont essayer de prendre contact avec vous pour être sûr. Parce que je connais pas mal de personnes âgées qui parfois se trompent,
oui,
oublient.
Oui. Elle a été établie au XIIIe siècle. Ibn al-Banna est mort en 1321. Il est né en 1256. Et c'était un juriste. C'était un savant en religion. Et donc, il avait, vous voyez, beaucoup d'humour, beaucoup d'efficacité. Il a trouvé une solution optimale. Vous remarquerez d'ailleurs la dimension scientifique au-delà des mathématiques. Il ne trouve pas une solution. Il trouve la meilleure solution. C'est un problème d'optimisation. C'est une discipline aujourd'hui moderne qui existe.
Oui.
Voilà, ça fait réfléchir les auditeurs, j'espère.
Oui, j'en suis persuadée. Mais là, c'est plus de la poésie aux mathématiques. C'est comment les mathématiques, peuvent devenir totalement poétiques. Hein. Là, c'est aussi beau que les quatrains de Omar Khayyam ou les alexandrins qui sont venus par la suite. Justement, dans la poésie arabe, il y avait des quatrains, des alexandrins. Ça, c'est ce qu'on appelle les pieds. Hein.
Ils avaient des maîtres, comme le Tawil, le Kamil, etc. Puis on a ajouté des maîtres, certains sont restés. Puis la poésie a évolué, vous savez que l'Andalus, les poètes andalous, ont inventé des rythmes différents, des types de vers différents, poèmes différents, qu'on appelle les Mouachahat. Et les Mouachahat ne sont pas des quatrains, mais presque, et avec une originalité extraordinaire qui fait qu'ils ont transgressé un tabou, que la langue arabe ne peut pas être remplacée. Or, ils prévoyaient toujours, comme la dernière strophe, les chanteurs le savent, de l'andalou. La dernière strophe doit être en dialecte. Et elle peut même être en roman. C'est-à-dire, ce n'est même pas le dialecte arabe. C'est-à-dire que tout le poème est en arabe classique. La dernière strophe doit être obligatoirement en dialecte, le dialecte de l'Espagne musulmane ou du Maghreb, ou bien même en dialecte roman. C'est-à-dire qu'il tenait compte même de la culture locale. Et puis plus tard, comme vous le savez, il y a la poésie arabe libre qui ne tient compte ni des maîtres, ni de la rime.
Là, on exprime presque...
C'est une évolution de la poésie arabe depuis le 8e siècle.
Eh bien, merci pour cette belle leçon de poésie et de mathématiques en même temps, ce mariage harmonieux entre disciplines qui, au départ, n'avaient rien pour se rencontrer, mais je dirais qui ont fait un cheminement extraordinaire, et pour la poésie et pour les mathématiques. Ben, comme tous les vendredis, merci, professeur Djebar. On vous écoute toujours avec le même plaisir. Merci aux auditeurs de nous suivre, de nous rester fidèles. Il reste encore beaucoup, beaucoup d'émissions. Je ne vous donnerai pas le titre de la prochaine émission. Vous le découvrirez vendredi prochain, dès 18h15, puisqu'on prend rendez-vous à nouveau avec vous pour cette formidable, fantastique, merveilleuse, je ne sais plus ce qu'il faut dire, sur l'âge d'or des sciences arabes. Merci, professeur Djebar. Et puis rendez-vous vendredi prochain, dès 18h15.
C'était l'âge d'or des sciences arabes, raconté par le professeur Ahmed Djebar. Présentation Dalila Smaïl. Collaboration Samira Chouadria. Réalisation Hafid Fourage.
L'âge d'or des sciences arabes avec Algérie Télécom.
Algérie Télécom, le bon choix.